Bien, écoutez, on va commencer cette soirée. Deuxième soirée consacrée ici, dans la région parisienne, à ce thème organisé par ce thème des protestants parlent, cycle de conférences organisé donc par la librairie Jean Calvin. C'est la troisième conférence, mais la seconde traitait des prophètes en Cévennes, donc était une conférence hors cycle. Nous avons commencé par aborder ce thème à la mairie du 9e, en compagnie de François Dos et Henri Blocher, en évoquant la personnalité de Paul Ricoeur, qui est un des plus grands philosophes de la seconde moitié du XXe siècle et qui était un protestant. Et donc, il nous semblait évident de commencer ce cycle avec la parole de ce philosophe. Et l'idée de ce cycle est donc de décliner ces différentes manières de parler qu'ont eues les protestants au cours des siècles, les protestants français, mais pas seulement, les huguenots, bien que ce soit, on va aussi parler d'un homme d'origine huguenote, on va en parler tout de suite. Vous savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, que la prédication est au cœur même de la foi protestante, du culte protestant. Il n'empêche, les protestants n'ont pas parlé qu'au travers de la prédication, même s'ils ont continué à le faire. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un très bel ouvrage qui est sorti là-dessus, aux éditions Alcide, sur les prédications de résistance du protestantisme pendant la Seconde Guerre mondiale, pour rappeler la résistance face au nazisme, ce qu'on appelle, ce que les historiens anglo-saxons appelaient la résistance spirituelle. Ce soir, nous aborderons une autre manière de résister, un courant fort de son époque, et qui a été la résistance face à l'esclavage. Et nous allons aborder une figure tout à fait majeure mais très méconnue en France, la figure d'Anthony Bénézé. Et nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce soir pour un sujet qui me passionne. Et je vois que les membres de cette honorable assemblée sont aussi passionnés, membres peu nombreux, ce que je regrette. J'aurais aimé que pour un sujet qui me semble être un sujet actuel encore, très vivant, j'aurais aimé que nous soyons plus nombreux, mais peu importe, vous êtes tous des membres honorables, donc ce sera une belle et une honorable soirée. Et je suis très reconnaissant donc ce soir de recevoir Marie-Jeanne Rossignol, qui a travaillé sur ce texte d'Anthony Bénézé et qui est professeur d'études américaines, et Bertrand von Rumbeck, que j'avais eu déjà la joie et l'honneur de recevoir à Alès, qui est professeur de civilisation américaine. Tous deux ont travaillé sur ce livre, ce beau livre, Une histoire de la Guinée, d'Anthony Bénézé, qui est un ouvrage qui, on va le voir, est une attaque contre l'esclavagisme. Et je leur laisse tout de suite la parole pour une présentation de Marie-Jeanne Rossignol. Ensuite, c'est Bertrand von Rumbeck qui reprendra la parole, et puis après quoi, vous terminerez. Et on pourra avoir, après ces 40-45 minutes d'intervention, 50 minutes, on pourra avoir un échange entre nous et vous pourrez donc poser vos questions. Voilà, à vous.
Merci beaucoup. Je suis personnellement très, très bien reconnaissante d'avoir été invitée, de découvrir le temple des Batignolles ce soir. Donc, merci beaucoup. Je vais parler du projet général parce qu'en fait, le livre que nous vous présentons surtout ce soir, qui est donc l'histoire de la Guinée de Anthony Bénézé, s'intègre dans un projet scientifique que nous avons mené avec Bertrand entre 2013 et 2017 autour de la figure de Anthony Bénézé, ou Antoine Bénézette, selon qu'on le voit du côté français ou du côté américain. Alors, ce projet scientifique était parti de la volonté simplement de commémorer le tricentenaire de Bénézé en 2013. Il est né en 1713 à Saint-Quentin. Je n'en dirai pas plus, et Bertrand vous rappellera son itinéraire en France et jusqu'à Philadelphie. Et nous avons à ce moment-là pensé qu'au-delà du congrès, du colloque, nous pourrions tout simplement rééditer son texte le plus célèbre, Some Historical Account of Guinea, qui était réputé exister en français par de nombreux historiens anglo-américains qui étaient les principaux spécialistes de Bénézé. Et une certaine recherche, une véritable enquête d'ailleurs policière, a révélé qu'il n'y avait pas eu de traduction. La traduction avait été entamée en 1788 sous l'égide de Brissot, président de la Société des Amis des Noirs à ce moment-là, elle avait été abandonnée et il n'y avait donc pas de traduction de ce texte qui fut un best-seller entre 1771 et la fin du XVIIIe siècle. Donc nous nous sommes à ce moment-là mis à réunir une équipe. Au départ, on pensait que ça serait plus simple de travailler avec plusieurs collègues, donc nous avons été, je crois, 5 à traduire entre 10 et 15 pages chacun. Et puis Bertrand et moi-même avons revu toute cette traduction. Et c'est un texte assez intellectuel, je vais le faire circuler. Donc nous nous sommes rendus compte à ce moment-là que le fait de traduire par portion avait abouti à un texte assez, comment dire, insatisfaisant. Et nous avons tout repris. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un très joli texte. J'en lirai d'ailleurs quelques extraits.
Il faut.
Parce que c'est un très beau texte du XVIIIe siècle. Il a été diffusé en des milliers d'exemplaires à l'époque, puisque c'est un texte de propagande. Voilà, donc je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus pour le moment, parce que Bertrand va vous expliquer qui fut Anthony Benezet et comment il est passé de Saint-Quentin à Philadelphie, où il est décédé en 1784.
D'accord, merci Marie-Jeanne. Et merci à Franck d'avoir inclus une présentation de ce livre dans ce cycle, dans ce beau cycle de conférences. Alors, je vais vous parler de la famille Benezet, avant de vous parler d'Antoine, puisque je vais parler du côté français, on va l'appeler Antoine. Et ensuite, j'en profiterai vous parler des Huguenots en Amérique, en fait. Alors, ce qui frappe, quand on a étudié le refuge, comme moi, le refuge Huguenot, ce qui frappe dans la personnalité de Benezet et l'itinéraire de sa famille, et la façon dont il a été étudié ou n'a pas été étudié par les spécialistes du refuge, que ce soit en Amérique ou en France, c'est son invisibilité, ou quasi-invisibilité. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, les Benezet venaient du nord de la France, mais à l'origine, ils étaient. C'est une famille du sud de la France, hein, de Calvisson, en fait, précisément. Donc près de Nîmes, et c'est une famille qui, au cours du XVIIe siècle, par mariage, à la fois stratégie professionnelle et stratégie d'alliance familiale, a remonté vers le nord de la France, en même temps qu'ils se sont enrichis. Et on les retrouve dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dans un triangle Dunkerque, Abbeville, Saint-Quentin. Et c'est une famille qui a réussi socialement, puisqu'on trouve les parents, enfin le père ou le grand-père d'Antoine Benezet, et soit receveur des traites, c'est-à-dire qu'il participe à la collecte des impôts, ou il a aussi, ça c'est le grand-père d'Antoine, qui s'appelait Jean Benezet, et ce Jean Benezet a un frère qui s'appelle aussi Antoine, qui est subdélégué, donc travaille avec l'intendant, hein, de la province, de la généralité. Donc, c'est une famille. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'apprend-on, déjà, avec ceci? Que c'est une famille qui, forcément, s'est convertie au catholicisme après la révocation, ou probablement avant, pour bénéficier d'une telle carrière, de tel poste. Après, on peut discuter, bien sûr, du catholicisme de façade et s'il retenait une part du protestantisme chez eux, bien sûr. Mais socialement, forcément, à un moment donné, c'est une famille qui s'est convertie. Alors, pourquoi Benezet est peu étudié, alors que c'est pour moi une figure marquante du refuge en Amérique? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est le départ, c'est l'origine géographique. Ils viennent du nord de la France, c'est pas une région qui au XVIIe est marquée par le protestantisme, il y a des enclaves, le plus souvent urbaines, mais même si c'est une région qui était, comme la Normandie d'ailleurs, très protestante au XVIe siècle, ne l'est plus au moment de la révocation. Donc, premier élément. Deuxième élément, ils sont partis très tard, puisqu'ils ont quitté la France en 1715, soit 30 ans après la révocation. Et pour... Alors, bien sûr, on n'a pas assez d'éléments pour savoir pourquoi ils sont partis en 1715, pourquoi pas avant. On peut qu'essayer de reconstruire avec pas mal d'imagination, je dirais, l'itinéraire familial. Et je pense que là, il faut vraiment regarder de près les générations. Le grand-père d'Antoine, donc ce Jean Bérénézet, qui avait réussi socialement, il a à peine 40 ans au moment de la révocation, un peu moins. Il n'est pas parti. Ce serait lui qui aurait pu partir, même s'il faut garder à l'esprit que sur 800 000 huguenots, que 600 000 quittent la France. Donc la majorité des huguenots sont restés en France. Donc il ne faut pas voir le fait qu'ils ne soient pas partis comme étrange, bien sûr. Mais il y a au moins cette décision de ne pas partir. Je pense que c'est parce que probablement c'était risqué. À 40 ans, peut-être pensait-il qu'il était trop âgé pour prendre de tels risques. Peut-être que comme il était bien installé socialement, on sait tous qu'une migration implique un déclassement social. Et d'ailleurs, quand on travaille sur le refuge, on voit ces notables qui sont dans les rues de Londres et qui doivent aller au consistoire pour demander des médicaments, des lits, des chaussures, des vêtements. Donc, les migrants, enfin les réfugiés huguenots, le savent avant de partir. Parce qu'il faut quand même resituer le contexte. Vous devez partir soudainement, parce que la France ou Louis XIV encourage la délation, donc il faut partir la nuit, tout d'un coup, tout abandonner. Et on verra dans la fuite des Bénézés que c'est un facteur très important. Deuxième, donc pour éviter la délation, il faut ne prendre que quelques petites choses avec soi. Donc c'est forcément un appauvrissement, à moins que vous ayez pu préparer votre migration en envoyant par des lettres de change, en ayant des lettres de change qui vous accueilleront à Londres ou Rotterdam ou Amsterdam où vous irez bien sûr. Et alors donc ce Jean Bénézet décide de ne pas partir. Jean Étienne, qui est le fils d'Antoine, lui a 2 ans au moment de la révocation. Donc il faut attendre une autre génération pour qu'il y ait un départ possible bien sûr. Donc lui, c'est lui qui va partir, ce Jean Étienne. Et il va le faire en 1715, il a une trentaine d'années. Donc, ce Jean Étienne, il part soudainement. Encore une fois, partir soudainement, ça fait partie de la prise de décision, j'ai envie de dire. Partir soudainement fait partie de la préparation de l'exil. Je pense, alors pourquoi lui part-il ? Il a laissé un journal dans lequel il explique qu'il ne voulait pas que ses enfants grandissent dans la religion catholique. Ça peut être certainement une de ses motivations. Mais imaginez la scène. Il part avec sa femme, qui est enceinte de 8 mois. C'est l'hiver, février 1715, dans le nord de la France. Ils ont 2 enfants. Antoine, qui a 2 ans, et il a une sœur qui doit avoir 4 ou 5 ans. Donc, le voici, ce Jean-Étienne, avec son épouse enceinte, ses 2 petits-enfants, à partir, alors on ne sait pas si c'est à pied ou non, ou avec... En général, on peut reconstruire que ce l'on sait du refuge en général. Quand on partait, il fallait un guide, il fallait aussi un réseau d'auberges, où on savait qu'on pouvait rester. Si vous pouviez partir à cheval, il fallait bien sûr des relais de poste. Il fallait rejoindre la frontière le plus tôt possible. Moi, je sais que j'ai travaillé sur la Caroline du Sud et j'ai trouvé des récits de réfugiés qui racontent de Bretagne, par exemple, comment ils ont essayé de rejoindre la Bretagne Nord, ensuite Jersey et ensuite Londres. Et on retrouve, il y a des guides qui ont été condamnés, exécutés, et avant, justement au moment de leur procès, on apprend justement quels réfugiés ils accueillaient, comment, et comment ils passaient en fait sous le manteau des cartes de fuite, on pourrait les appeler. Mais on a très peu d'éléments, hein, d'une manière générale. Donc, mais imaginez, donc, ils sont partis tout d'un coup, en plein hiver, et je pense que il y a 2 choses à retenir, à mon avis, même s'il faut utiliser un peu d'imagination, parce qu'on n'a pas de source, écrites. Il faut imaginer d'une part que cette famille avait sans doute été protégée, et c'est pour ça qu'ils ont pu rester en France de 85 à 1715. Peut-être ont-ils perdu leur protection du jour au lendemain, c'est possible. Et deuxièmement, il ne faut pas commettre l'erreur, comme l'ont fait les généalogistes américains du début du XXe siècle, de penser qu'ils n'avaient jamais assisté à une messe. Il est bien évident que si vous vivez en France et que vous êtes protestant de 85 à 1715, vous allez à la messe. Vous imaginez, dans les petites communautés, on vous surveille. Donc, et sans surprise, dans les recherches que j'ai faites à Rotterdam, puisqu'ils arrivent à Rotterdam, on voit que tout de suite, ils font ce qu'on appelle leur reconnaissance. Et la reconnaissance, c'était les réfugiés, quand ils arrivaient dans une église wallonne, puisqu'aux Pays-Bas, on les appelait les églises wallonnes, même si elles étaient la dominante huguenote dans ces années du début 18e, où on dirait des églises huguenotes en Angleterre plutôt que wallonnes, mais peu importe. Dans ces églises qui vous accueillent, vous devez faire amende honorable devant le consistoire avant d'être réintégré dans la communauté calviniste française. Et là, donc, sans surprise, Jean-Étienne avoue être allé, je cite, quelques fois à la messe, s'il faut bien sûr minimiser. Donc, ils partent tardivement, ils vont à Rotterdam. Cette petite famille va à Rotterdam. Pourquoi Rotterdam ? Parce que, et là on retrouve un schéma traditionnel du refuge, à Rotterdam, ils ont des liens familiaux. Ils vont être accueillis, en fait. Parce que l'épouse de Jean-Étienne, Judith, de Méjanel, donc Judith, elle a en fait des cousins, des parents, qui sont installés à Rotterdam. Et d'ailleurs, dès qu'ils arrivent à Rotterdam, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont chez le notaire. Parce qu'ils veulent casser leur contrat de mariage, parce que bien sûr, ils se sont mariés en 1709, forcément devant un prêtre catholique, donc ils veulent annuler leur mariage, et deuxièmement, vendre leurs biens tout de suite à Saint-Quentin, c'est-à-dire leur maison en fait. Mais, alors là on n'a pas les sources, il est fort probable que leur maison ait été confisquée, comme la plupart des biens des protestants fugitifs. Ils arrivent à Rotterdam, et il ne reste que 6 mois en fait, de février à août. Et donc le temps de se refaire une santé, pour ainsi dire. Et ils partent à Londres. Et pour Judith, le temps d'accoucher, bien sûr. Et ils partent à Londres. Alors Jean-Étienne, lui, c'est un marchand dans le textile. Et il pense sans doute qu'à Londres, il fera de meilleures affaires qu'à Rotterdam. Je rappelle qu'on n'a pas, malheureusement, ça serait trop beau si ces réfugiés nous racontaient leur vie, leur motivation, les gens qu'ils ont rencontrés. Mais pour vous dire, sur les 500 huguenots que j'ai étudiés en Caroline du Sud, j'ai trouvé qu'une seule lettre d'une femme, par chance, donc c'est original, d'une réfugiée, qui explique pourquoi elle est partie de France. En fait, elle a été obligée par son frère aîné. Donc on est un peu déçu par la motivation, parce qu'en fait, elle avait été obligée. Et puis elle raconte son itinéraire par les Bermudes, enfin Londres, ensuite les Bermudes, et ensuite comment elle a rejoint la Caroline du Sud. Mais c'est rarissime, en tout cas pour ceux qui sont partis en Amérique. À Londres, ce qui frappe, la première chose que j'ai, quand j'ai vu, parce qu'on les retrouve par les baptêmes de leurs enfants. Et la première chose qui frappe, qui m'a frappé en tant que quelqu'un qui a travaillé sur le refuge, c'est de voir qu'ils vont à l'église de la Savoie. Le premier enfant qui naît à Londres, le premier de leurs enfants qui naît à Londres, est baptisé à la Savoie, Savoy en anglais. Et l'église de la Savoie à Londres était une église conformiste, c'est-à-dire c'était une église francophone, mais anglicane. Je dis, c'est vraiment surprenant. Si vous prenez le chemin en arrière, si vous voulez, puisqu'on sait qu'ils deviendront Quaker, et pourtant, ils vont chez les anglicans dès qu'ils arrivent à Londres. Très bien. Comme quoi, les archives réservent toujours des surprises. J'aurais jamais imaginé qu'ils seraient allés dans une église anglicane. Bref, on les retrouve, s'ils vont avoir une dizaine d'enfants à Londres, on les retrouve de paroisse en paroisse. Wandsworth, Chelsea, Shoreditch, Le Carré, il y avait une église, une autre, s'appelait Le Carré, et la Savoie. On les retrouve donc à Londres et à la périphérie de Londres. Donc beaucoup de mouvements, en fait, ce qui est typique des réfugiés. Le refuge, c'est tout sauf la stabilité. Et ce qui frappe aussi, c'est parfois leurs enfants sont baptisés par des anglicans, des pasteurs anglicans, donc anglais, parfois par des pasteurs calvinistes francophones, enfin français, non conformistes donc, calvinistes. Alors quand on étudie le refuge dans les pays anglophones, on fait la différence entre conformiste et non conformiste. Et ça, conformiste signifie que vous avez adopté le rite anglican, vous êtes devenu anglican en fait. Donc il y avait des églises, il y avait un calvinisme francophone en Angleterre et en Amérique, dont l'origine est Jersey en fait. Et donc on les retrouve dans différents quartiers, dans différents types d'églises en fait. Et une quinzaine d'années plus tard, en 1730, il décide de partir à Philadelphie. Ici aussi, pour quelqu'un qui étudie le refuge, très grande surprise. Double surprise. Première surprise, pourquoi aller à Philadelphie ? Ce n'est pas du tout un réflexe de réfugiés huguenots, tel qu'on peut les reconstruire à partir des archives. Parce qu'en Amérique, les huguenots s'installent un peu à Boston. Mais les Huguenots n'aimaient pas les puritains. Les Huguenots n'aimaient pas les dissidents. Je reviendrai là-dessus. Ils aimaient les anglicans. Un peu à New York, effectivement. Mais surtout en Caroline du Sud. Donc on les retrouve à Charleston et dans des petites communautés qui ont des noms tout à fait intéressants, comme le quartier d'Orange, hein, qui est nommé après William of Orange. Vous avez aussi... on les retrouve en Virginie aussi un peu plus tard, donc dans le sud des États-Unis, à Boston, dans Nouvelle-Angleterre. En Rhode Island, on les trouve aussi dans Rhode Island, vous avez un French Town qui se trouve près de Newport, donc en Rhode Island, et à New York, il y a une assez grosse communauté. Mais, donc, très peu en Pennsylvanie. Et pourtant, quand vous étudiez l'Amérique coloniale, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur William Penn et ses pamphlets? C'est ce qu'on appelle en anglais pamphlets, mais en fait c'est des imprimés de propagande en français pour attirer les colons, dont sa lettre pour les Huguenots. Mais en fait, non, les imprimés de propagande pour attirer des colons français, donc Huguenots, dans les années 1680 en Pennsylvanie, en fait ont attiré des Allemands, pour être clair. Et en revanche, les seigneurs de Caroline du Sud, on les appelle les seigneurs de Caroline du Sud parce que la Caroline du Sud, c'était une colonie à propriétaire, c'est-à-dire qu'elle n'appartenait pas à la couronne, mais elle appartenait à 8 aristocrates anglais. Ces seigneurs de propriétaires ont fait publier des imprimés de propagande, 5 entre 1684 et 1686, donc tout autour de la Révocation, et ils ont finalement attiré plusieurs centaines de Huguenots. Mais pas les Bénézés. Surprise, les Bénézés vont à Philadelphie. Alors, si vous voyez l'immigration huguenote comme une migration économique, ce qui est tout à fait possible pour, bien que c'est hasardeux de dissocier l'économique du religieux au XVIIe siècle, mais si vous voulez accentuer la dimension économique pour une migration atlantique, dans ce cas-là, au XVIIe ou au début XVIIIe, dans ce cas-là, Philadelphie, j'ai envie de dire en anglais, it makes sense. Pourquoi pas, effectivement, parce que Philadelphie, même si la Philadelphie de 1730, c'est pas la Philadelphie de la Révolution, bien sûr, c'est pas encore la grande métropole coloniale d'Amérique du Nord, mais ça reste une ville dans une colonie à très fort potentiel économique. Il est marchand. Pourquoi pas aller à Philadelphie ? Ça ne l'intéresse pas d'être avec d'autres Huguenots, apparemment, sinon il ne serait pas allé à Philadelphie. Double surprise, je vous disais, l'autre versant de la surprise, l'autre surprise, c'est Quaker. Il se fait Quaker. Alors les Quakers sont dans une position tout à fait originale dans l'histoire anglo-américaine, parce qu'ils sont 50 000 en Angleterre sur 5 millions d'habitants, donc ils sont petits, marginaux, persécutés, méprisés, pour différentes raisons. Ils n'utilisent pas le... Ils utilisent... le tutoiement, le thou, thou, etc. Ils ne soulèvent pas leur chapeau, ils ne se décoiffent pas devant un juge, Ils sont pacifistes. Donc toute une série de choix. Ils n'ont pas d'église. Pour eux, c'est des meeting house. Donc de maisons de rencontre, si vous voulez. Mais pas, ce n'est pas des églises. Et ils s'appellent the Society of Friends. La société des amis, ce n'est pas a church, c'est a society. Très important les termes qu'ils choisissent. Donc, une minorité méprisée, marginalisée, persécutée même. Alors, pourquoi avoir fait ce choix, alors que la plupart des réfugiés huguenots n'aspirent qu'à une seule chose, mettre fin au profond et douloureux déchirement qu'ils ont vécu de génération en génération en ne partageant pas la religion de leur roi. Parce que les huguenots sont des monarchistes. Et quand ils partent, soit aux Pays-Bas, soit en Angleterre et plus tard en Amérique, ils veulent, enfin, devenir anglicans, pour eux, c'est la chance d'enfin partager la religion du roi. Jean-Étienne et Judith ne le font pas. Ils choisissent une autre minorité. Mais, donc ils vont continuer cette vie de minoritaire qui était si douloureuse pour eux. Mais, et c'est un mais très important, ils vont en Pennsylvanie, là où les Quakers ne sont plus minoritaires, ne sont pas minoritaires, ils sont même au pouvoir. Et c'est une caractéristique très intéressante de cette histoire anglo-américaine du XVIIe siècle et du début XVIIIe, c'est que vous avez une colonie, c'est pas la Nouvelle-France, hein, c'est pas la Nouvelle-Espagne, hein, c'est une colonie que l'on a donnée à une minorité religieuse. Donc imaginez, c'est très intéressant, comme vous avez une minorité persécutée, méprisée, vous traversez l'Atlantique, ils sont au pouvoir. Même si, bien sûr, en 1715, n'est pas 1782, ils contrôlent beaucoup moins l'Assemblée qu'ils ne le contrôlaient au temps de William Penn. Mais quand même, quand on pense Pennsylvanie, dans ces années-là, avant l'afflux des 100 000 Allemands qui arriveront au XVIIIe siècle, la Pennsylvanie reste quand même grandement imprégnée, de Quakerisme. Donc c'est une colonie tout à fait particulière encore à cette époque. Alors, ils se convertissent, ils deviennent Quakers. La grande question des généalogistes ou historiens du 19e siècle, c'est ils le font avant de partir ou après? Bon, pour moi, ce n'est pas une question très importante, mais je pense qu'il y a très peu de doutes que ce soit avant. Très peu de chances que ce soit avant, pardon. Je pense qu'ils sont... Je pense sincèrement, même si on manque de sources, mais je crois que Jean-Étienne a fait probablement des affaires avec des Quakers, parce qu'il faut garder à l'esprit que les Quakers, au début du XVIIIe siècle, à Londres, comme à Philadelphie, sont riches, riches et prospères. Il a dû faire des affaires avec eux. Peut-être il a été séduit par cette religion, ce groupe. Je veux pas dire le mot église, hein, puisqu'il ne voulait pas l'employer. Et il est parti. Alors, effectivement, c'est lié. Si vous êtes très lié aux Quakers, vous voulez partir en Amérique, vous allez en Pennsylvanie, bien sûr. Vous n'allez pas aller chez les Puritains à Boston, ni sur les Anglicans en Caroline du Sud. Ça n'aurait pas de sens. Donc ça, c'est un choix tout à fait cohérent. Donc, Jean-Étienne, Judith. Alors, je continue sur Jean-Étienne avant de laisser la parole à Marie-Jeanne pour suivre un peu l'itinéraire d'Antoine Anthony, puisqu'il deviendra Anthony une fois en Pennsylvanie. Jean-Étienne, par chance, on a retrouvé, ça c'est nouveau, hein, c'est dans l'autre livre, hein, sur les livres où il y a un ouvrage collectif avec des essais sur la vie, le parcours d'Antoine Bénezet et aussi l'influence de son œuvre en Angleterre, en France et en Amérique. Ce Jean-Étienne, on a découvert des lettres qu'il écrivait à un ami à lui à Rotterdam, qui s'appelle, et c'est pas une invention, il s'appelle Prosper Marchand, donc c'est parfait. Et il lui écrit, il lui raconte, il lui parle de la Pennsylvanie. Alors, c'est des lettres très intéressantes qui datent des années 1730, 1740, donc un peu plus tard. Il meurt au début des années 1750, hein, Jean-Étienne, 52, 54. Et il lui raconte Germantown. Germantown, maintenant, c'est une banlieue de Philadelphie, mais à l'époque, c'était une petite bourgade à côté de Philadelphie. Et ce Jean-Étienne, à la fin de sa vie, ne s'intéresse qu'à deux choses, son salut et son jardin, comme il le dit dans ses lettres. Et il raconte dans une de ses lettres, c'est très précieux, dans une de ses lettres, il raconte ce sur quoi moi j'insiste, mais je l'avais insisté sans le savoir, par déduction si vous voulez, dans mon essai sur sa vie, son itinéraire, c'est une instabilité spirituelle. Il est né dans une famille catholique, calviniste. Il a dû être catholique pendant plusieurs décennies. Il est redevenu calviniste à Rotterdam. Il est devenu quaker. Il a fait baptiser ses enfants dans des tas d'églises protestantes à Londres. Finalement, il va devenir un frère morave. Puis, à la fin de sa vie, il va découvrir le christianisme raisonnable de Locke et il va vouloir redevenir un calviniste, mais sans la prédestination. Donc on sent bien que c'est un personnage qui a eu un itinéraire spirituel douloureux, incertain, difficile, sans doute quelqu'un d'une grande introspection religieuse, qui a dû faire des choix difficiles dans sa vie, mais qui a aussi fait des affaires. Hein, c'était aussi, il faut voir Jean-Étienne comme un homme d'affaires. Et d'ailleurs, son Antoine, Anthony, va le décevoir. Et là, dans une de ses lettres, il explique qu'il était plus doué pour la spiritualité que les affaires. Donc, en fait, on sent qu'il a déçu sans doute son père. Et inversement, je pense que Antoine a dû être déçu par Jean-Étienne dans le sens où lui, il a grandi en fait comme Quaker à partir de son adolescence et il est resté Quaker toute sa vie. Il n'a pas changé de religion comme son père. Et il a aussi écrit un de ses ouvrages, dans un de ses ouvrages, il explique ce que sont les Quakers au français. Enfin, c'est un des rares ouvrages qu'il a écrit en français. Voilà. Donc, voilà pour le background familial d'Antoine, Anthony.
Merci bien. Donc, j'enchaîne pour raconter cette histoire, puisque arrivé à Philadelphie, comme tu viens de l'expliquer, Antoine Benezet, qui de toute façon a été éduqué auparavant en Angleterre, va devenir assez rapidement et de façon assez surprenante un des piliers de l'église Quaker. Donc tu as dit qu'il ne fallait pas utiliser le mot église, donc de la communauté Quaker. C'est plutôt le terme qu'on utilise. C'est assez surprenant, puisque les Quakers, c'est un groupe religieux qui est très endogame. C'est-à-dire qu'on se coopte, on se marie entre Quakers. Et donc c'est une communauté transatlantique. Ton hypothèse sur la façon dont les Benezet sont devenus Quakers me semble tout à fait plausible. Ce sont des marchands et leur principale ligne transatlantique, ben, c'est Londres, Philadelphie. Et donc il est possible qu'à Londres, effectivement, ces grands marchands aient rencontré Jean-Étienne, qui a été convaincu à la fois par la prospérité économique et les options spirituelles des Quakers. Antoine Benezet va donc se marier dans une famille extrêmement pieuse et rapidement gravir les échelons parce que la communauté est quand même très très organisée. Il y a différentes donc, meeting houses, mais il y a des monthly meetings et une réunion de tous les Quakers de la Pennsylvanie une fois par an. Et c'est une réunion très importante où on peut prendre des décisions majeures qui engagent toute la communauté. Et c'est ainsi qu'il se fait connaître à la fois sur le plan en tant que les historiens le connaissent surtout à partir de 1754, date à laquelle lui et un de ses amis, John Woolman, un homme jeune pieux comme lui, arrive à s'imposer face aux Quakers plus âgés. Donc c'est la génération montante, il est né en 1713, donc en 1754, bien voilà, juste une quarantaine d'années. Ils arrivent tous les deux à s'imposer et à faire passer ce qui va être son premier texte. C'est un engagement de la communauté à se dégager de l'esclavage, de la possession d'esclaves, de l'achat et la vente d'esclaves. Voilà. Parce qu'en Pennsylvanie, quand ils sont arrivés donc, en 1730, il y a des esclaves dans toutes les colonies d'Amérique du Nord au Sud, les colonies britanniques, il y en a aussi d'ailleurs dans les colonies françaises. Et dans les colonies britanniques, en revanche, ils sont parsemés, ils sont distribués de façon très très différente d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Angleterre, il y a 1% d'esclaves, en Pennsylvanie 2%, et soudain, dans la colonie de New York, dans le New Jersey, on peut atteindre jusqu'à 12%. Et évidemment, en Virginie, on passe à 40%, en Caroline du Sud, plus de 50%, en Géorgie, un peu moins, évidemment, puisque l'esclavage est lié, finalement, le plus récent, à l'époque coloniale. Donc quand il arrive, il va être confronté à cette population qui, dans la ville de Philadelphie, s'occupe aux tâches domestiques. Voilà. Mais c'est une population qui est aussi débarquée régulièrement directement d'Afrique sur les quais. Les esclaves venant d'Afrique sont vendus à Philadelphie comme ailleurs. Alors, en 1754, après donc 24 ans sur place, Benozet arrive à s'imposer, à imposer ses idées et à imposer ses idées à l'ensemble de la communauté. Les Quakers de Pennsylvanie ont cette tradition, c'est eux qui ont innové en matière d'opposition, assez régulière avant 1754 à l'esclavage. Dès 1688, il y a une protestation justement des Quakers de Germantown, qui sont des récents immigrés d'Allemagne, et qui disent « mais on n'en veut pas, nous c'est injuste », et ils utilisent un argument qui est vraiment l'argument clé, c'est la règle d'or, c'est-à-dire « nous ne voulons pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse », et donc ce texte, qui est un texte manuscrit, est disponible en ligne si on veut le lire, mais c'est simplement un texte manuscrit, donc on pense qu'il a circulé, mais pas beaucoup. Dans les années 1730, au moment où Benozet arrive, il y a un certain nombre de marginaux, de Quakers marginaux, qui écrivent des textes anti-esclavagistes, se fâchent avec la communauté, vivent en ermite pour terminer, avec toujours comme thème principal l'opposition à l'esclavage. Et la communauté de Pennsylvanie échange régulièrement avec la communauté de Londres, qui elle aussi est quand même très inquiète de ce traitement qu'on fait à leurs frères humains, les Noirs venus d'Afrique. À partir de 1754, les cris de Benezet et Woolman va donc sonner le glas des pratiques esclavagistes dans la communauté, mais comme vous pouvez l'imaginer, pas d'un jour à l'autre. À partir de 1754, Benezet et John Woolman se mettent à visiter leurs frères, puisque une communauté pacifique, les Quakers, donc on ne va pas immédiatement excommunier les gens, même si à la fin ça va se passer comme ça. On va aller les voir, on va leur rendre visite, enfin, c'est vraiment visiting. On rend visite aux Quakers qui possèdent des esclaves, on essaie de les convaincre très gentiment par la persuasion de s'en débarrasser. John Woolman a une technique terrible, il est notaire public, et donc au moment où les gens viennent faire leur testament chez lui, eh bien, il conseille aux Quakers, en ce qui concerne la propriété d'esclaves, de l'abandonner, c'est-à-dire de libérer les esclaves à leur mort. On voit bien comment cette perte de propriété peut être moins douloureuse qu'une libération immédiate et une perte des esclaves. Et ça marche beaucoup, la libération par testament va peu à peu se diffuser. On sait que c'est comme ça que George Washington lui-même va se débarrasser de ses esclaves. Il ne les libérera pas du tout de son vivant, mais à sa mort, oui. Et beaucoup d'autres planteurs, à la fin du XVIIIe siècle, les planteurs de Virginie, vont ainsi libérer leurs esclaves. Il y a évidemment des procès, on ne va pas faire référence à un procès qui est en train de démarrer en France, mais il y a des procès après, une fois le testament lu, souvent les héritiers le contestent et essaient d'éviter la libération des esclaves. On peut dire qu'en gros, ce sont des procédures qui étaient quand même qui aboutissaient rarement. Donc Benezet va être extrêmement occupé, il est maître d'école, effectivement, il n'est pas devenu un grand marchand, comme son père l'expliquait. Il va créer non seulement une école pour les enfants Quakers, mais une école le soir pour les enfants noirs de Philadelphie, ce qui fait qu'à sa mort en 1784, il y aura 500 noirs qui vont suivre ses anciens élèves, dont certains vont ensuite devenir des piliers de la communauté libre de Philadelphie. C'est un homme bon, mais un homme très très actif. On peut imaginer que cette campagne de libération l'a tenu extrêmement actif. Ce que nous avons traduit n'est pas ça. Car sur ce sujet de la libération, Libération à Philadelphie. Il n'a plus jamais écrit, en fait, après 1754. On voit que sa pensée, et c'est en ça que c'est devenu un intellectuel de l'anti-esclavagisme, c'est quelqu'un qui a irrigué de ses écrits l'Angleterre. En fait, à partir de 1759-1760, il se mit à écrire des textes qui vont toujours être construits de la même façon et qui vont s'améliorer de volume en volume en prenant des titres plus ou moins différents d'un volume à l'autre. Ces textes portent sur la traite et le mauvais sort qu'on réserve aux esclaves importés dans les colonies britanniques, non pas en Amérique du Nord, mais dans les colonies à sucre. Donc, c'est assez. Moi, j'appelle ça le paradoxe de Benezet, c'est-à-dire qu'il a consacré toute sa vie jusqu'à sa mort à militer pour l'abolition de l'esclavage sur place, en Pennsylvanie, et il y est arrivé, puisque Bertrand vous a expliqué que, quand même, les Quakers, c'est la majorité des gens en Pennsylvanie. Donc, quand il meurt en 1784, hein, depuis 1776, il n'y a plus dans la communauté Quaker d'esclaves. Donc, et très franchement, l'exemple de la communauté a fait que le nouvel État de Pennsylvanie, en 1780, passe une loi d'émancipation pour tous les esclaves, y compris ceux qui n'appartiennent pas à des Quakers. Donc il a réussi son affaire, il l'a tellement bien réussi qu'il est honoré par les Français qui connaissent son Brissot, Crèvecoeur, vont chanter les louanges de Benezet progressivement. Et c'est une histoire très connue, puisque Benjamin Franklin étant lui-même le voisin de Benezet, étant lui-même Franklin un peu le mentor de d'autres jeunes philadelphiens de renom, diffuse la nouvelle en France, la nouvelle de l'émancipation des Quakers, est connue dès 1769 en France, et elle va avoir un grand succès dans la littérature abolitionniste française, aussi bien dans l'histoire des deux uns de la Bérénale que dans des écrits ultérieurs. Donc voilà, personnage qui va organiser la campagne d'émancipation en Pennsylvanie, mais ce n'est pas ça dont il parle dans ses fameux volumes. Les volumes ne parlent que de la traite, et ils vont en parler d'une façon qui va permettre aux Anglais, après 1783, de eux-mêmes lancer une grande campagne contre la traite. Pourquoi ces volumes vont-ils avoir tant de succès? Pas immédiatement, hein, même si Benezet les fait imprimer à ses frais à des milliers d'exemplaires et envoyer partout dans les colonies en Angleterre. Alors, il va renverser dans ce livre, qui est donc la version la plus aboutie de son argumentaire, hein, c'est le livre que nous avons fait est un livre qui reprend le texte de la façon la plus proche possible. Donc vous verrez, je pense qu'il y a des exemplaires qui circulent. Enfin bon, c'est un livre qui est organisé en chapitres, il y a un index, les chapitres sont précédés de résumés du chapitre. Donc, et le volume lui-même est suivi par une série d'extraits de bons textes anti-esclavagistes, de Montesquieu à d'autres personnages. C'est donc un texte de combat, un texte qu'on peut utiliser facilement dans une campagne anti-esclavagiste. Donc, quand il écrit ce texte, il a commencé à en faire des versions précédentes depuis 1759-1760. Qu'est-ce qui fait que cet argumentaire est si spécial? Eh bien, Benezet va prendre le contre-pied de tout ce qu'on dit à l'époque sur la traite. Qu'est-ce qu'on dit à l'époque sur la traite? C'est que c'est un bienfait pour les Africains qui viennent d'un continent tout à fait obscur. Ce sont des sauvages qui ont besoin d'être civilisés et finalement, dit-on, en les amenant dans les Antilles, on les sauve du destin tragique qui les attendait probablement en Afrique. Benezet retourne cet argument, mais il le retourne de manière indubitable. C'est-à-dire que il fonde entièrement son argumentaire sur des sources primaires. Alors évidemment pas des sources primaires récoltées auprès d'Africains. Hein. Il a sûrement discuté avec des Africains, bien sûr, puisqu'il il éduquait leurs enfants, donc il a obligatoirement discuté avec des Africains. Et il y a, à l'époque, dans les colonies d'Amérique du Nord, au milieu du XVIIIe siècle, un certain nombre d'Africains qui se rappellent de leur enfance en Afrique et qui vont produire des récits. Donc, il aurait pu le faire, mais ce n'était pas ça qu'il fait, de façon extrêmement intelligente et intellectuelle, et j'insiste beaucoup là-dessus. Il va se fonder sur les fameux volumes de récits de voyage qui sont publiés au milieu du XVIIIe siècle, donc juste avant qu'il commence à écrire. Ces récits de voyage, ces collections sont à disposition sur place puisqu'il y a à Philadelphie une grande bibliothèque privée mais à laquelle il a accès et une autre bibliothèque privée, celle d'un des grands Quakers. Donc, même si lui n'est pas une personne très riche, il y a une bibliothèque sans doute pas très étendue, il peut aller consulter tous ses ouvrages. Il va, dans ces récits de voyage, que trouve-t-on ? Les récits des agents, des forts de la traite. Depuis la fin du XVIe siècle, des forts sont établis, même avant d'ailleurs, je pense même dès le début du XVIe siècle, des forts ont été établis le long des côtes africaines de ce qu'il appelle la Guinée. Alors il explique tout de suite, la Guinée c'est en fait du Sénégal à l'Angola. Entre le Sénégal et l'Angola, les Européens, à commencer par les Portugais, ont installé des forts. Puis ensuite les Français et les Anglais, souvent les uns à côté des autres. Ces forts de traite ont des agents, des représentants, des compagnies françaises, anglaises ou portugaises. Ces agents laissent des traces, c'est-à-dire des journaux, des documents, des récits de voyage. Ces récits de voyage sont compilés. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi, à bord des bateaux négriers, des marins, mais surtout des médecins, qui eux vont tenir un journal de bord, en racontant ce qui se passe de jour en jour. C'est-à-dire, ils constatent depuis le bateau les guerres qui se passent, comment les guerres sont suscitées, etc. Bon, sachez que donc cet ouvrage est une sorte de collage extrêmement intelligent de toute une série de sources primaires et qui parfois ont été considérées par les historiens comme des sources extrêmement négatives sur l'Afrique. Et il y a aussi des sources extrêmement positives sur l'Afrique dès le XVIIIe siècle. Bénezet, lui, est très malin, il va chercher, c'est quand même un propagandiste, c'est quand même un militant, il va aller chercher, même dans les textes négatifs, tout ce qui pourrait être positif sur l'Afrique. L'Afrique est donc décrite comme un continent tout à fait, acceptable, civilisé. Il y a des royaumes, il y a des gouvernements, il y a des juges, il y a une religion qui est l'islam, une religion dont il dit le plus grand bien, puisqu'elle évite de l'alcoolisme, sur lequel il écrit aussi à 16 heures. L'Afrique est donc un pays où la traite est en train de précipiter une catastrophe politique, puisqu'évidemment, il nie complètement la participation africaine à la traite. Pour lui, la traite n'est que une conséquence de la rapacité et de la cupidité des Européens. Et donc, ce renversement des arguments habituels est un renversement absolument indubitable et incontestable, et c'est en cela qu'il va être utile. La deuxième, donc il va décrire, je ne vais pas prendre trop de temps non plus, il va décrire ce qui se passe en Afrique sur la base de textes acceptés, publiés et que personne ne songerait à contester. La deuxième partie du livre, après une description terrible de la traite qui fait porter toute la responsabilité sur les Européens, consiste à une description du traitement des Africains une fois arrivés aux Antilles, à partir de la vente humiliante, mais aussi des traitements, c'est-à-dire des tortures qu'on inflige aux Africains. Et là aussi, sa grande source, c'est celle de Sir Hans Sloane, grand naturaliste extrêmement bien introduit en Angleterre, qui a écrit une histoire de la Jamaïque où il n'épargne aucun détail absolument abominable, sachant que donc l'ouvrage est absolument truffé de notes de battage, les lecteurs sont obligés d'admettre, l'honnêteté des sources de Bénezet, qui n'invente rien, il cite constamment. Cet argumentaire anti-traite et anti-victimisation des esclaves va Bénezet comme l'arrange, l'améliore d'un livre à l'autre, et finalement, en 1771, il publie ce qui est finalement son chef-d'œuvre, C'est un assez gros pamphlet. On peut voir que c'est un livre non relié à l'époque. C'est quand même un livre de 200 pages. Il le publie à Philadelphie et immédiatement l'année d'après, il le publie à Londres, où les Quakers commencent à s'agiter sur la question de l'esclavage et de la traite. Mais comme vous pouvez voir, son principal objectif, c'est donc la traite. Pendant la guerre d'indépendance américaine, il y a les milliers d'exemplaires circulent, mais n'ont pas immédiatement d'effet. On peut imaginer que le Parlement a autre chose à faire en gérant la perte de ses colonies britanniques d'Amérique du Nord que de s'occuper aussi de la traite atlantique. À partir de 1783, ces livres vont devenir la Bible des anti-esclavagistes. Thomas Clarkson, qui va mener la campagne d'abolition de la traite, est un lecteur assidu vit une sorte de révélation quand il tombe sur l'ouvrage de Benezet. Mais il ne sera pas le seul à subir ce genre de révélation, qui est un ouvrage très beau, très bien fait et bien mieux organisé que beaucoup de textes à l'époque. Alors, le sort de Benezet est d'être republié après sa mort en 1788. Il y a une troisième édition londonienne en plein milieu de la grande campagne qui va aboutir en 1807 à l'abolition de la traite. Alors, je vais juste pour terminer lire deux petits passages. D'abord l'introduction, page 57. C'est le début du chapitre 1, qui est assez programmatique. Quand on considère les nègres seulement dans leur état actuel d'esclavage, l'esprit brisé et abattu, et que l'on accorde trop facilement crédit aux récits que nous entendons ou lisons souvent, qui partent de leur mode de vie barbare et sauvage dans leur propre pays, nous sommes naturellement entraînés à penser qu'ils sont incapables de s'améliorer, que ce sont des indigents, des malheureux, qui ne connaissent pas les bienfaits de l'existence, et qu'en leur permettant de vivre parmi nous, même dans les pires conditions d'oppression, nous leur accordons une faveur. Mais, si l'on mène une enquête impartiale, la situation apparaîtra bien différente. Nous découvrirons qu'il n'y a pas un pays au monde qui soit mieux calculé pour offrir à ses habitants les conforts nécessaires de l'existence et réclame moins de soucis et de peines que la Guinée. Et qu'en dépit de la longue fréquentation que nombre de ses habitants entretiennent avec souvent les pires des Européens, ils conservent pourtant beaucoup de simplicité innocente, et quand ils ne se mettent pas en campagne pour se venger des fréquents abus qu'ils ont reçus des Européens en général, on découvre en nous un peuple charitable et sociable, dont les facultés sont aussi capables d'amélioration que celles des autres hommes. Et leur économie et leur gouvernement sont, sous de nombreux aspects, louables. Donc ça, c'est le programme, finalement, du premier chapitre. Et page 137, un passage bien différent d'esprit, qui montre que Benezet, et c'est ce qui fait la force du livre, est aussi capable non seulement de dénoncer la traite, mais de transmettre un message plein de sentiments et d'humanité envers les esclaves. Le livre joue sur toute une série de registres, de la philosophie à la littérature sentimentale. Page 137. Donc c'est le début du chapitre 13. Lorsque les vaisseaux arrivent à leur port de destination dans les colonies, l'on doit vendre les pauvres nègres aux planteurs. Et ici, ils sont encore une fois exposés nus, quel que soit leur sexe, à la merci de l'inspection brutale de leurs acheteurs. Et ceci, l'on peut en convenir, est pour beaucoup une nouvelle cause de profond désarroi. Ajoutez à cela que des proches doivent encore une fois être séparés pour partir avec leurs acheteurs respectifs. Ceci devrait émouvoir n'importe qui, sauf ceux dont les cœurs sont desséchés par la fatigue. L'on aperçoit des mères s'accrochant à leurs filles, mouillant leur poitrine découverte de larmes, et des filles se cramponnant à leurs parents, ignorant quelle nouvelle détresse doit suivre leur séparation, ou s'ils se reverront un jour. Et alors, quelle compassion, quelle commisération leur offre-t-on ? Oh, en effet, s'ils refusent de se séparer aussi volontiers que leurs propriétaires jugent à propos, le fouetteur est appelé, et le fouet appliqué sur leur corps nu, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se séparer. Est-il possible pour un cœur humain qui ne serait pas endurci à force de pratiquer de telles cruautés, de rester indifférent à l'égard de cette affliction si cruelle à laquelle cette partie opprimée de notre espèce est soumise ?
Bien, merci beaucoup à tous deux pour cette reconstitution très précise de la vie de Benezé, intégrée dans une histoire du refuge aussi, et tu nous as bien montré toute la complexité de ce refuge. Merci aussi pour cette histoire de la trajectoire de la pensée d'Antoine Benezé, mais aussi l'histoire du texte, et pour cette introduction, cette découverte de ce texte, de ce très beau texte, donc anti-esclavagiste. Quand je vous écoute parler, j'ai envie de faire le parallèle avec un autre grand personnage du refuge, un hulot français, un hulot aussi, qui a été confronté à une situation tragique, et j'ai envie de dire que c'est presque la confrontation à une situation tragique qui pousse ces hommes, que ce soit à Benezé ou je pense ici à Pierre Bayle, à réagir et donc à construire finalement une pensée, à théoriser un système qui permet de s'opposer finalement à l'inacceptable, que ce soit l'esclavage ici dans ces colonies avant les États-Unis, ou que ce soit l'intolérance manifestée en France par le règne de Louis XIV. En tout cas, c'est une belle histoire que je découvre avec vous, et je suppose que l'honorable Assemblée aura des remarques, des questions, et je vous laisse donc la parole. Oui. Bien sûr. Donc la question, c'est est-ce que la traite s'est arrêtée pour les Danois après, en 1802 ?
Oui, enfin, la traite danoise, alors je viens juste de décrire un article où j'en parle, donc je devrais me rappeler mieux de la date, mais c'est une des premières traites à s'arrêter, voilà. Et la traite anglaise est tout à fait bien suivie. L'abolition de la traite, c'est une terrible décision par laquelle les Anglais se privent de toute une partie de leur économie, alors qu'ils étaient les premiers transporteurs. Donc, et non seulement ils arrêtent le transport, mais ils mettent sur pied, après 1815, une fois que les guerres napoléoniennes sont terminées, une croisade navale le long des côtes d'Afrique. Donc c'est vraiment une décision majeure, qui n'est pas d'ailleurs le produit d'une idéologie droite ou gauche, enfin conservatrice ou pas conservatrice, parce qu'il y a une sorte d'union des Tories qui sont au pouvoir et des classes moyennes qui font une pression de l'opinion populaire, le tout bien mené par Clarkson et Goldenfoss. Donc ça a vraiment marché, mais ça a vraiment marché. Et les Danois, donc, pour revenir à la question de départ, sont tout à fait parmi les premiers à intervenir. Il y a d'autres traites, en revanche, que les Anglais n'arrivent absolument pas à faire taire. Parce qu'évidemment, étant devenus les rois du monde après 1815, ils aimeraient que tout le monde se mette au diapason. Les Brésiliens, les Portugais vont être la principale résistance aidée par justement les Américains, les Nord-Américains, mais qui là pratiquent la traite en toute illégalité, puisque les États-Unis aussi abolissent la traite en 1808.
Entre 1750 et 1776.
Pas tant que ça, justement. Il y en a quelques-uns, c'est assez rare. En fait, la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, était assez endogame. Et parmi les élèves de Benezé, un certain nombre, comme je crois James Fulton, sont devenus les fondateurs des églises noires, qui existent toujours aux États-Unis. Les Noirs se sont rendus compte que les églises, quelles qu'elles soient, on ne peut pas dire églises Quaker, mais enfin, les Quakers, les baptistes, les méthodistes, ne les acceptaient pas à égalité. Et donc, il y a eu quelques Quakers noirs, mais en général, les Noirs ont créé des églises qui étaient les. C'était en général African, Methodist, Episcopalian et.
Baptiste. Baptiste.
Voilà. Ou des Baptistes. Et ils ont créé leurs propres églises aux.
Et pourquoi il n'y a pas d'intégration des Noirs qui deviennent Quakers? Pourquoi ils ne s'intègrent pas dans la communauté? Puisque l'endogamie devrait fonctionner, ils sont Quakers.
Oui, à la fin du XVIIIe, il y a un fort préjugé de race. Donc, c'est pour ça que moi, je fais très attention avant de héroïser même Benezé. Dans le dernier chapitre, il finit par parler un petit peu de ce qui se passe à Philadelphie et il évoque le préjugé de race de ses co-religionnaires. Et là, il dit le préjugé est si fort que certains n'auraient pas du tout la coexistence. Il faudra donc déplacer les Noirs une fois libérés. Et il envisage plutôt l'ouest des États-Unis. Donc je crois que ce qu'il faut voir, c'est que le préjugé, la libération, donc, qui va se produire au moment de la révolution américaine, s'accompagne de l'émergence, en tout cas de l'affirmation d'un fort préjugé contre la coexistence. Finalement, les Noirs libérés vont être plutôt tolérés qu'autre chose.
Je voudrais juste insister, en mentionnant un autre réfugié, insister sur la rareté des protestants français ou anglophones qui créent des écoles pour les esclaves ou leurs enfants. C'est extrêmement rare dans les colonies anglaises au XVIIIe. Je prendrai l'exemple d'Elie Nau, N-E-A-U, qui venait de l'ONIS, donc près de La Rochelle, la Saintonge. Un itinéraire tout à fait intéressant, puisque lui, il est parti d'abord en Nouvelle-Angleterre, ensuite au moment de la révolution, ensuite à New York. Il a obtenu la citoyenneté à l'époque britannique, comme si on était dans les colonies américaines, et c'était un marchand, et il était capturé au large de la Jamaïque par des corsaires malouins qui l'ont ramené à Saint-Malo. Et une fois à Saint-Malo, eux, ils auraient simplement voulu récupérer ses biens et le laisser partir. Et en fait, on l'a tout de suite identifié comme un protestant fugitif. Il a été condamné par le Parlement de Rennes à la chaîne, c'est-à-dire traverser la France enchaînée, et aux galères. Il est devenu assez célèbre en fait dans le monde anglophone à l'époque, et lors des négociations du traité de Ryswick, donc en 97, la reine d'Angleterre va insister pour qu'il soit libéré. Il va être libéré, il va aller en Suisse, il va retourner en Amérique, et une fois à New York, il va créer une école pour les esclaves. Donc ça, c'est un exemple qui est relativement peu traité. C'est un des prédécesseurs de Benezé, en fait. Mais sinon, on a des exemples de pasteurs anglicans dans les colonies du Sud qui cherchaient à essayer d'inclure le plus possible les esclaves dans leurs églises. Mais souvent, et il faut insister là-dessus, se heurtaient à la résistance des maîtres. Moi, j'ai cette très belle anecdote d'un pasteur en 1712 en Caroline du Sud, où il dit, il discute avec une femme de planteur qui lui dit, en anglais c'est « If you convert them, will I meet them in heaven ?» Est-ce que je vais les rencontrer au paradis ? Donc c'est très intéressant, comme il y avait cette, on d'accord pour les émanciper, d'accord pour les convertir, mais il ne faut pas qu'ils restent parmi nous.
Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, madame ? On va vous passer le micro.
D'anthropologie quand même, puisqu'elle est fondée sur les observations d'un certain nombre de naturalistes qui décrivent les sociétés africaines, avec, qui décryptent les sociétés africaines en montrant qu'elles ont des gouvernements, une justice, une économie. Enfin, il faut lire les premiers chapitres, les trois premiers chapitres qui expliquent comment fonctionne l'économie africaine, etc. C'est... Et voilà, donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment un postulat d'égalité complète des hommes. Mais qui n'exclut pas le fait qu'une fois sur place, la question de la couleur de la peau rende la coexistence en fait plus difficile que la théorie pourrait le laisser penser.
Bertrand, tu veux ajouter une chose ? D'autres questions ? Pierre ?
Oui. Bon, bah, j'allais, si on a 5 minutes, je voulais dire un mot sur l'index en fait. On a aussi travaillé sur l'index parce que Bénézé a fait son propre index. Et je sais en tant qu'auteur, enfin nous savons en tant qu'auteur que faire un index, ça prend un temps fou. Mais lui, il a fait un index. C'est très intéressant. Alors je le connais par cœur parce que j'étais chargé, parce que c'est divisé le travail, j'étais chargé de le traduire. Et donc j'ai passé 3 jours sur cet index et je me suis aperçu en le relisant, et en fait, c'était son argumentation. Son index est dans son argumentation. Pas du tout dans sa table des matières. La table des matières, elle est assez inintéressante. Mais son index, parce que je voulais vous donner un ou deux exemples. Vous prenez la lettre C, vous n'avez qu'un seul mot pour la lettre C. Corruption. Vous êtes sur la lettre E, il y a 3 termes. Le premier, en majuscule, parce que vous savez qu'à l'époque, sur les presses, on joue sur les manuscules minuscules, Elisabeth. Ah, Elisabeth serait-elle responsable ? Elisabeth première, monsieur. Etc., etc. Et c'est très intéressant. Pour le L, vous avez loi. Le seul mot qu'on a, c'est loi. Pour B, c'est barbare. Barbare. Pourquoi la barbare ? Parce que c'est la première colonie esclavagiste. Etc., etc. Et donc, si vous lisez ce livre, pensez à passer un peu de temps sur l'index et le lire, pas pour avoir la pagination des termes, ça n'a aucune importance, même si j'ai passé des heures à la reconstituer. En fait, il faut voir justement, il faut le lire un peu indépendamment du reste, en le voyant comme la ligne de son argumentation. En fait, il a sélectionné des termes par des lettres, et c'est les mots qui sont les plus importants pour lui. En fait.
Merci beaucoup, c'est passionnant ça, effectivement, cet éclairage. Donc je vous invite à ne pas repartir sans venir feuilleter ce très beau livre, l'histoire de la Guinée d'Anthony Bénézé, donc, et venir discuter encore avec le conférencier de ce soir. Je vous rappelle aussi que si vous le voulez, vous pouvez vous munir de ce programme, Les Protestants parlent, donc programme du cycle des conférences, et n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. La prochaine conférence, ce sera demain soir à la Maison du Protestantisme, juste juste à côté, hein, sur le thème « La Bible aujourd'hui ». Vous savez certainement que la Bible est encore le livre le plus vendu, le plus lu et le plus traduit dans notre monde encore aujourd'hui. Donc il s'agit de savoir qu'est-ce que représente encore ce livre, et notamment dans notre société française. Et puis la prochaine conférence d'histoire, ce sera en mars, et ce sera plutôt sur la construction de l'identité protestante avec deux professeurs, Céline Borello, qui viendra nous parler de la prédication, hein, comment la prédication a contribué à construire ce que Jeannine Garrison appelait l'homme protestant. Et puis, ce sera Olivier Crestin qui viendra nous parler aussi des limites posées, hein, par la discipline ecclésiastique sur le corps calviniste, hein, sur le corps de l'homme, de la femme protestante, et comment cela aussi a contribué à la construction de l'homme et de la femme protestante. Donc, prochaine conférence en mars. Je profite aussi pour remercier la paroisse des Batignolles qui nous reçoit ce soir. Et je remercie vivement la conseillère presbytérale qui nous a reçus chaleureusement, le monsieur dont je ne connais pas le nom mais qui s'est occupé aussi gentiment de la technique, merci beaucoup. Et je remercie aussi Jean-Marie, hein, qui n'est pas là ce soir, qui a dû s'absenter contre son gré. Mais voilà, merci à toute la paroisse de nous avoir reçus, d'avoir mis à disposition ce très beau temps qu'on a découvert ensemble pour cette conférence. Merci à vous tous de votre présence.
Ça reste un bel endroit.